Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Good Job. En France, une personne sur cinq est touchée chaque année par un trouble psychique, soit 13 millions de personnes. 44% des salariés présentent des signes de détresse psychologique, selon le dernier baromètre d'Empreinte humaine. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la santé mentale, un sujet qui nous concerne tous. Pour en parler avec moi de manière accessible et pédagogique, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Testa, fondatrice du site L'Optimisme, co-autrice avec Eva Mazur du livre « Aider, les clés pour apprendre à observer, écouter, accompagner » paru aux éditions Michel Lafon. Bonjour Catherine.
Bonjour Fabienne.
Une question pour commencer qui n'est pas anodine au vu du sujet qui nous réunit. Comment vas-tu ?
Eh bien écoute, ça va. Parfois, je peux répondre ça va comme ça pour ne pas étayer, mais là, j'ai envie de te dire ça va bien, je suis contente de te voir.
Ravi, plaisir partagé. Quand on parle de santé mentale, de quoi parle-t-on exactement ?
On parle de santé. Déjà, avant tout, parce que la santé mentale est une dimension de la santé. On pense souvent à la santé physique, en fait, quand on parle santé, mais la santé physique, la santé tout court, en fait, c'est la santé mentale, la santé sociale et la santé physique. Donc, c'est une dimension de la santé.
Est-ce qu'il y a une idée reçue en particulier qui t'agace sur la santé mentale ?
C'est de caricaturer, en fait, la santé mentale à un trouble de la santé mentale et à quelque chose de très noir, en fait. En France, vraiment, la santé mentale, ça fait peur, en fait. Mais la réalité, c'est qu'on a tous une santé mentale et il faut aussi en parler de façon positive.
Oui, et pas seulement quand elle est dégradée ou que ça ne va pas.
Et c'est généralement ce qui se passe. On s'inquiète seulement à partir du moment où on se rend compte que vraiment, vraiment, ça ne va pas. On commence à se dire, bah, tiens, je vais peut-être m'en occuper.
Et justement, à quel signe faut faire attention ? Avec Eva Mazur, dans votre livre, vous parlez, j'aime beaucoup, de la règle du hic.
Oui, ouais. Alors, pour te donner une métaphore, parce que je pense que les métaphores sont assez intéressantes, c'est la notion de se dire un peu comme un bouton sur le nez. Tu sais, un bouton sur le nez, tu te dis, bah, ça ne va pas bien, je ne me sens pas bien, sauf que le bouton sur le nez, il peut passer, en fait. On peut ne pas s'en rendre compte. Sauf que le bouton sur le nez, tu sais, qu'il reste, qu'il y a une intensité, qui finalement, bah, tu n'as pas envie de sortir, tu ne vas pas à ton date Tinder parce que tu as un date, t'as pas envie d'aller au boulot, tu te dis que tout le monde ne va voir que ça, en fait. Là, il commence à y avoir une souffrance, en fait. Donc, c'est cette notion d'intensité, d'humeur et de changement. Donc, c'est ce qu'on appelle le hic. Mais je trouve que cette métaphore, elle est intéressante parce qu'on n'a pas tous, en fait, une santé mentale dégradée. C'est plutôt quand ça va durer dans le temps et que ça va commencer à avoir des impacts sur notre vie.
Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans le monde du travail, peut justement dégrader aussi notre santé mentale ? Quelles sont un petit peu les sources, les facteurs de mal-être ou qui peuvent aujourd'hui nous toucher ?
Alors, ils sont pluriels, hein. C'est pas que dû forcément au monde du travail, mais forcément, il y a cette notion dans les risques psychosociaux qu'on connaît bien, c'est le fait de ne pas pouvoir exprimer ses émotions, en fait. Par exemple, donc ça va faire qu'on va cacher le fait d'avoir une mauvaise santé mentale. Les gens qui ont, par exemple, un trouble de la santé mentale ne vont jamais le dire dans le monde du travail, alors que dans toutes les équipes, il y a des personnes qui ont un trouble de la personnalité, qui ont un TDAH, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité, qui ont des troubles de la schizophrénie. En fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on ose dire. Donc déjà, le fait de le taire, finalement, ça rajoute du mensonge, ça rajoute une suradaptation où on ne peut pas s'exprimer, ça peut être une zone de douleur. Le manque de reconnaissance, parce qu'il y a un cercle vicieux dans la santé mentale. On se dit que ça va pas bien, que ben finalement on n'est pas hyper productif, on n'est pas au top de sa productivité, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Et du coup, c'est une sorte de cercle vicieux. On va peut-être moins aller voir ses collègues et autres. Et donc, le fait d'avoir peut-être un isolement qui va se générer en fait de façon un peu logique dans le monde du travail, en fait, l'isolement il est de nous-mêmes, mais il est aussi parfois du rejet des autres parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. En fait, il va y avoir aussi toutes ces pensées en fait, auto-stigmatisantes où on va s'enfermer en fait, plutôt que d'aller, on va dire, percer le bouton, in fine, pour qu'il nous permette aussi d'aller mieux.
Tu parlais de la difficulté d'en parler, notamment au travail. Le burn-out, c'est à la frontière de la santé physique et mentale. L'épuisement peut être physique, mais ça joue aussi sur le volet psychologique. On va écouter le témoignage d'Arthur Roboeuf, fondateur de Time for the Planet.
En rentrant d'une journée assez chargée, j'ai reçu un texto, comme j'en reçois beaucoup, qui me disait « Est-ce que t'as pu gérer ?» Trois petits points, quoi. En lisant ça, j'ai senti un truc vraiment littéralement craqué dans ma tête. Je me suis mis dans mon lit et j'étais incapable d'en sortir pendant 24 heures. J'étais éclaté au sol. Et je suis allé voir un médecin qui m'a tout de suite dit « En fait, vous êtes en surmenage. Soit vous prenez des vacances maintenant, 3 semaines, soit vous allez avoir des dommages juste irréversibles, physiques et mentaux. » C'est là que j'ai compris que ouais, je faisais un burn-out. Mais je m'en rendais même pas vraiment compte parce que j'adore ce que je fais, je suis passionné par mon travail. J'ai jamais compris que les gens puissent être en burn-out. Vraiment, je l'ai dit ça pendant 10 ans de ma vie. En fait, on voit pas venir la charge mental. Et je pense qu'il faut faire hyper attention et il faut le dire. Il faut jamais oublier son équilibre. On se rend pas compte à quel point on n'a plus de limite en fait. On est tout le temps stimulé par des notifications, par des mails, par des demandes. Le week-end, le soir, on est un peu dans une culture de la méritocratie où on nous dit que c'est normal d'être tout le temps en train de bosser.
Qu'est-ce que ça t'évoque, Catherine ?
J'adore Arthur. En plus, il a un équilibre de vie bien plus que beaucoup, parce qu'il est notamment entre la campagne, il voyage beaucoup aussi. Ça évoque plusieurs choses. La première chose, c'est que déjà, moi, j'avais un regard, j'avais le même que lui. Je me disais, ils font semblant. Je me disais même, ils font un faux burn-out. C'est-à-dire, je me disais que plein de gens se cachaient derrière un burn-out, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est cette notion de celui qui fait un burn-out, en fait, il va avoir, il va avoir une dose de stress, en fait, qui va être perçue, et des capacités, en fait, à aller gérer ce stress. Donc, il y en a, ça va marcher pendant des années, parce qu'il va avoir les capacités, en fait. Et au bout d'un moment, un SMS de trop, ça va craquer. Parce qu'il ne va pas s'être rendu compte qu'il encaissait de plus en plus, et il suffit qu'il y ait un changement dans la vie perso, dans la vie pro, pour que tout d'un coup, tout s'effondre. Et ça, c'est un jugement, je pense, qui est très important, parce que quand on est manager, quand soi-même on a une capacité de travail, moi je tape vite en fait. Et donc, j'ai pas compris dans mes équipes, dans ma vie passée, que certains en fait finalement se sentaient débordés là où pour moi j'avais l'impression qu'il y avait pas de problème. Mais c'est parce que eux étaient probablement plus consciencieux, qu'ils mettaient plus de cœur à l'ouvrage que moi je faisais ça en mode approximatif. Et donc, ça aussi, c'est changer son regard en se disant, bah alors attends, je suis pas dans le référentiel de l'autre et surtout je connais pas forcément sa vie pro ou sa vie perso en fait. C'est-à-dire que finalement, une personne, elle peut avoir géré un deuil, on ne le sait pas forcément, géré une rupture, en fait. Et donc, on parle beaucoup de frontières vie pro, vie perso, mais tout ça, ça vient rajouter à notre charge mentale, en fait. Donc, ce qu'il évoque est très caractéristique, parce qu'en plus, il y a un grand déni de celui qui fait généralement un burn-out. C'est-à-dire qu'il ne va pas voir le médecin, en fait. Il va voir le médecin quand il est au point de rupture. C'est la même chose que la notion de santé mentale. Il va voir quand il commence à avoir des symptômes physiques. Souvent, on va attendre d'avoir des symptômes physiques, forcément, douleur au dos, tout un tas de symptômes qui sont les conséquences du stress, tout simplement. Et on va attendre d'avoir ça pour aller consulter. Et on va être dans un total déni en disant « Ah ben non, mais moi j'adore bosser, en fait. Et je suis passionnée.
Tout va bien.
Tout va bien. Mais je pense que tous les gens passionnés peuvent, à un moment donné, arriver en point de rupture, surtout chez les indépendants. Parce qu'on n'a pas le soutien, on n'a pas le regard des autres, on n'a pas des sas de décompression qui peuvent être finalement des réunions, en fait, qui, même si on critique la réunionnite aiguë, ça nous extrait quand même de notre bureau et on peut être en roue libre à taffer comme des... comme des crétins, on va dire ça comme ça, mais même si on est passionné pendant des heures et des heures. Et ça, c'est un vrai sujet, en fait, c'est très complexe comme notion, parce que l'autre n'a pas le même ressenti que nous, en fait. Et moi, je m'étais toujours dit aussi, par exemple, j'adore bosser, en fait. Moi, j'ai besoin que mon cerveau, il s'active sur quelque chose. Donc, si je fais pas A, je vais faire B. Mais la réalité, c'est que derrière, il faut quand même avoir des espaces, en fait, de joie, de sport, pour ne pas complètement dégrader sa santé.
Tu parlais de l'importance du soutien des autres. Si on a un collègue qui va pas bien, quels sont tes premiers conseils pour justement l'aider ?
Alors, le premier, c'est déjà de se demander si on a la capacité soi-même d'aider. Donc, c'est-à-dire de prendre une juste distance, que ça ne se reflète pas tout, ça ne fait pas un pur effet miroir. Donc, c'est déjà se poser la question si soi-même on est en mesure. Le premier conseil, c'est d'écouter, d'ouvrir la parole. Tu vois ce que tu m'as demandé, le fameux ça va. Moi, je donne souvent cet exemple de, j'ai un ami qui est diététicien dans la vie et qui me dit aux gens ça va. Donc, on lui répond un premier truc, après il dit mais ça va vraiment, et vraiment. Et donc, juste dans ce ça va, en fait, qui offre une posture d'écoute, déjà, on va permettre à la personne forcément de peut-être d'aller étayer en disant ouais, ça va pas forcément, etc., etc. Donc l'écoute, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand tu demandes en plus aux personnes qui ont soit un trouble psychique, qui finalement est à vie, in fine, ce dont elles ont eu le plus besoin dans leur parcours, c'est d'une écoute. Ça paraît un peu bizarre, mais cette écoute active, on ne sait pas forcément écouter l'autre. Arthur évoquait ce temps rapide. Généralement, on écoute pour répondre. C'est très courant et on ne laisse pas de blanc. Mais quand tu laisses un blanc, tu te rends compte que les gens continuent leurs propos, en fait, plutôt que toi, tu vas leur dire quelque chose. Deuxième point, c'est toujours rerouter. C'est-à-dire que nous, en fait, en tant que manager, en tant que collègue, en tant qu'ami, parce qu'au travail, il y a aussi des amitiés, on se substituera jamais au rôle d'un professionnel de santé. C'est-à-dire, on fera des amalgames, on se dira, moi, j'ai vécu ça, fait ça, ou un tel, il a vécu ça, fait ça. Et l'enjeu, c'est que dans un parcours en fait de santé mentale, en fait, de prendre soin de sa santé mentale, il va y avoir des tiers de confiance qui vont être équipés, outillés et savoir quoi répondre. Que nous, on n'est que collègues en fait. Et on peut être biaisé. En plus, on peut dire non, mais c'est sûr, tu fais une dépression. Tu vois, ou, mais non, tu fais pas un burn-out. C'est pas ça le burn-out. Je connais Josette qui a fait un vrai burn-out. Elle, tu vois, un peu ces effets de transposition. Donc rerouter, c'est important. C'est très difficile de conseiller à quelqu'un d'aller voir un psy, par exemple. Alors généralement, tu as parfois des ressources en interne. Déjà, mais on n'ose pas forcément y aller parce que le psychologue du travail est copine avec la RH, alors voilà, on n'y va pas. Donc, c'est d'ouvrir la. Voilà, de donner par exemple des ressources des sites web, typiquement, ou alors d'envoyer vers des articles, par exemple, en disant bah tiens, ça peut t'aider, qui vont apporter déjà de l'auto-soin, en fait, avant peut-être d'aller voir, d'aller un peu mettre les pieds dans le plat en disant moi j'ai vu un psy, c'est cool. Parce que moi, c'était ce que je disais avant. Moi, je disais, je trouve ça vachement intéressant d'aller voir un psy. C'est une soupape. Et moi, j'avais vraiment cette caricature du psy, c'est cool. Ouais. Ça dépend du psy.
On parlait du burn-out. Il y a des pathologies dont il est plus difficile de parler. Je pense à la dépression notamment. Il y a des maladies qui sont toujours tues, qui suscitent de la culpabilité ou de la honte. Et je vais te lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Vous m'avez manqué » de Guy Birenbaum. Et là encore, je vais te demander de réagir après. « Je n'ai aucune idée du moment où ça m'a rattrapé. Je me souviens d'une grande lassitude, de larmes qui coulent, comme par inadvertance. Puis de nuits trempées de sueur, de douleurs au dos, au ventre, du cœur qui s'emballe. Un matin, j'ai été incapable de me lever. La dépression m'a clouée au lit. Je ne voulais voir personne. J'avais peur de tout, je ne me supportais plus. L'hyperconnexion a joué un rôle dans ma dépression. Un jour, pourtant, ça a été mieux. J'écris ce livre pour cette phrase, pour que la lectrice inconnue, le lecteur perdu au fond de sa nuit, sache que ça arrive. On va mieux. Pas moins mal, mieux. Le moteur redémarre, il tout saute à l'occasion, mais il ronronne à nouveau.
Ça me fait des frissons, la lecture. Alors c'est exactement ça aussi, parce que quand on aide quelqu'un qui est en souffrance, alors soit on ne l'aide pas et on va avoir un jugement, genre la dépression c'était une feignasse, très clairement, ou il suffit qu'il se bouge, et ce que tu dirais pas à quelqu'un qui a un bras dans le plâtre. Attends, mais il suffit que tu bouges le coude, ça va aller mieux, en fait. Et donc, c'est vrai que comme ça ne se voit pas physiquement, on a tendance à aller dire, il suffit que tu fasses de la méditation, tu vois, ou il suffit que tu prennes des médicaments. Ça va dépendre, en fait, des personnes, en fait. Il y a quelque chose qui est intéressant parce que le « ça va mieux ». C'est-à-dire que quand on est un proche, et donc là, c'est la dépression, mais ça va être des troubles plus... voilà, qui vont durer peut-être sur toute une vie, en fait. On va avoir peut-être envie de sauver l'autre et qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. C'est-à-dire que soit qu'il se médicamente, soit qu'il aille voir la chamane, soit... Enfin, voilà, en fonction de qui on est soi-même. Et l'enjeu, c'est de se dire que parfois, c'est bien plus imperceptible, le rétablissement. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il ait entendu un podcast qui ait une phrase qui résonne, tout d'un coup ça va lui faire un bien fou, alors que vous l'avez dit à peu près la même chose des centaines de fois, et vous vous dites non mais attends, ça fait des années que je répète ça en fait. Et donc c'est un peu ça, c'est la même chose que souvent quand on veut que quelqu'un aille consulter, on sent qu'il est en souffrance, on sent que quand on est proche ou collègue, on va pas suffire, on sait qu'il a besoin d'aller voir quelqu'un, alors qu'un professionnel de santé, enfin, presque quel qu'il soit, on va poser une carte. Par exemple, on avait ce témoignage, je crois qu'on l'a mis dans le livre, on pose une carte sur la table de l'entrée, et pendant 6 mois, 8 mois, 2 ans, il se passe rien, et un jour, il va prendre la carte, en fait. Et donc, c'est cette notion aussi de subtil. Comme le disait Arthur, et comme ça a été évoqué d'ailleurs dans ce témoignage, on est dans une société du temps court. On veut qu'on soit soigné immédiatement, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'attendre, on n'est presque plus capable d'apprendre, on veut tout savoir. On est dans une société de la rapidité. Et finalement, la santé mentale, c'est un peu comme la santé physique. C'est un rétablissement sur le temps long, en fait. Et on a du mal, qu'on soit celui qui souffre ou l'entourage, à l'accepter, ce temps long. On se sent démuni, on voudrait que ça aille plus vite. Mais quelqu'un qui s'est fait une triple fracture du pied, on va savoir que ça va demander des mois de rétablissement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à comprendre, en fait.
Vous l'avez affiché en couverture du livre, oser parler de santé mentale. Est-ce que les entreprises, selon toi, ont un vrai rôle à jouer aussi pour libérer la parole sur ce sujet ?
Alors, les collaborateurs le demandent de plus en plus. Pour moi, en fait, il faudrait que ce soit presque l'État qui s'occupe de ce sujet et qui le porte quand même aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en tiers de confiance, le collaborateur, le salarié, attend beaucoup de son entreprise, qui a de plus en plus, on attend de son entreprise qu'il nous... Enfin, tu parles de QVT dans ce podcast, on attend de son entreprise qu'on nous donne des cours de sport, de yoga, etc., etc. Donc finalement, prendre soin de la santé mentale de ses collaborateurs, j'ai envie de dire, il y a une mission sociétale, d'un point de vue général, qui est noble, il y a une mission peut-être un peu plus héroïste, bah, quand on prend soin de la santé mentale, il y a forcément moins d'absence. Hein, ça fait partie des postes de l'assurance maladie, les arrêts pour santé mentale, absolument phénoménaux. Donc, il y a un aspect héroïste, mais pour moi, un aspect qui est beaucoup plus social. C'est très compliqué d'en parler. Très clairement, moi, je m'en suis rendu compte qu'autant on parle beaucoup de QVT, parler de santé mentale, souvent les entreprises ont peur que ça soit ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire, si je commence à en parler, mais c'est la même chose que les risques psychosociaux, qui est quand même quelque chose de normal, en fait, on n'ose pas en parler, parce que si on commence à ouvrir la boîte, ils ont peur que bah, tout le monde lève la main en se disant qu'on a tous un problème. Non, la réalité, c'est qu'on n'a pas tous un problème de santé mentale, déjà, rassurons peut-être tout le monde. Mais au-delà de ça, c'est qu'il faut mieux prévenir que guérir. C'est toujours les actions de prévention, mais comme on mesure pas, et je crois qu'on n'en a pas parlé dans le livre, mais on mesure pas le risque, on se dit que c'est pas grave, on n'a pas encore eu de cas. Nous, on a souvent des gens qui viennent nous voir en nous disant « on a eu des cas ». Voilà, tout d'un coup, c'est la même chose. Hein, tu prends en se disant on attend d'avoir un cas, en fait. Bah, super. En fait, c'est complètement antinomique, mais c'est parce qu'on va chercher le gain de temps, en fait, le gain d'argent. On se dit que ça nous coûte cher de mener des mesures préventives qui vont peut-être ne pas servir, en plus, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Comme on a mené des mesures préventives, on a protégé, c'est un peu le sens des salariés. Et puis, on se dit que ce n'est pas si grave, donc on se surestime. On se dit, bah non, nos managers, ils y arrivent, donc ce n'est pas si grave, tu vois. Et on sous-estime le risque, en se disant, bon, allez, au pire, voilà, il va être fatigué. Maintenant, derrière, comme tu l'évoques, quand on a un problème de santé mentale, derrière, on a des problèmes souvent physiques, il y a des conséquences physiques, en fait. Donc, c'est ce triptyque, en fait, que l'entreprise ne prend pas. Le mot santé mentale, ça fait peur. Donc, tout d'un coup, on est en train de parler de bien-être mental. Il y a un amalgame qui est en train de se passer aussi. La QVT devient la santé mentale, alors que c'est deux sujets complètement différents. Quand vous avez quelqu'un dans votre équipe qui a un trouble bipolaire versus quelqu'un qui a... une légère anxiété, c'est sur le spectre hein, de la santé mentale. Et c'est ça aussi peut-être qui est important d'expliquer, c'est que c'est un continuum, la santé mentale. C'est pas on est en bonne ou en mauvaise santé mentale, c'est qu'on navigue, en fait. Le sujet, c'est quand on navigue dans des extrêmes, déjà, et surtout quand il y a souffrance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont, voilà, qui ont des diagnostics qui sont posés, et qui arrivent, bah, donc par des stratégies d'adaptation, etc., vous ne le savez pas, en fait. Mais bah, ils ne vont pas forcément oser en parler, parce que tout d'un coup, on devient, entre guillemets, je caricature, hein, mais le schizophrène de la boîte, on devient le bipolaire de service, et comme en France, on n'est pas encore, on n'a pas le regard qui est adapté, dans le milieu, par exemple, de la musique, dans le milieu artistique, j'aurais envie de te dire, quelqu'un, un artiste qui fait une dépression, tu te dis que c'est normal. Tu vois, pourquoi ? En fait, pourquoi ça serait plus admis dans le milieu artistique, en vrai ? Donc c'est un vrai questionnement, le sujet de la santé mentale en entreprise.
Et est-ce qu'il y a aussi à déconstruire l'image qu'on peut avoir notamment des managers, hein, des super-héros, où aujourd'hui on commence à afficher un peu ses vulnérabilités, hein, ce qui fait lien, je trouve, avec un autre de tes livres qui était sur l'authenticité au travail. Il y a peut-être besoin aussi de poser la cape de Wonder Woman et de Superman.
C'est ça. Et cette notion de vulnérabilité, elle n'est pas du tout admise aujourd'hui. Il y a quelques leaders qui commencent à en parler, en fait, mais tu n'oses pas parce que c'est un peu comme la superwoman, tu vois, on t'a mis les épaulettes, toi t'es toujours, t'es toujours souriante, on est plutôt des compositions souriantes, le jour où tu fais la gueule, on attend, qu'est-ce qui se passe, tu vois, comment ça et donc c'est aussi ça, dans le rôle managérial, on te met en fait une responsabilité, tu te sens responsable et du coup tu n'admets pas tes propres vulnérabilités, tu n'as pas le temps aussi, parce que ben, le sujet de la santé mentale, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même une notion de temps long, faut se questionner, faut tout d'un coup se dire, ok, je vais rentrer dans un parcours, je vais aller voir, je sais pas, mon médecin généraliste, mon psy, un coach, un thérapeute, peu importe en fait ce qui va correspondre à la personne pour un état d'amélioration, mais ça demande en fait de déconstruire ben, finalement la position que tous les autres peuvent nous donner aussi en fait. Et donc on va pas forcément, on a beaucoup parlé de l'échec, tu sais, on va apprécier l'échec, c'est bien, mais apprécier l'authenticité, on n'est qu'un humain en fait. C'est-à-dire qu'on a nous aussi un plus un, généralement quand on est manager et même quand on est dirigeant, on a des financiers à côté, donc tu vois, on est toujours voilà, l'exécutant de quelqu'un quelque part, on a toujours des comptes à rendre à quelqu'un. Donc en fait, on est toujours un peu étriqué entre les deux, mais c'est le fameux sens des responsabilités qui fait qu'on ne va pas s'écouter, en fait. Et parfois, même si, en plus, notre job ne nous intéresse pas. En fait, on est dans une sorte de... Tu sais, le petit hamster dans la roue, du coup, enfin, accepter, en fait, de se poser juste en se disant, mais la fameuse question, ça va ? Est-ce que je vais bien ? De se poser cette question, alors sans pathologiser, en fait, le sujet, mais juste de se poser la question, alors attends, aujourd'hui, c'est quoi mes émotions ? Je vais faire un baromètre de ces émotions dans la journée. tout bête, exercice tout bête. Mais de se dire, alors attends, est-ce que j'ai l'illusion que ça va bien ou est-ce que ça va bien? Est-ce que j'ai des choses qui me mettent en joie? Est-ce que j'ai des zones d'épanouissement? Et c'est pour ça, souvent, on parle du travail sur les valeurs. Qu'est-ce qui me met en joie? Moi, apprendre, ça me met en joie. D'autres, ça va être en totale souffrance parce qu'ils se disent, moi, je préfère ne pas apprendre. En fait, je préfère savoir ultra bien faire quelque chose. Moi, j'adore apprendre. Et donc, c'est aussi bien se connaître. Et ça, c'est un fondement. J'en reviens toujours, toujours à ça. Plus on se connaît, plus on accepte d'être imparfait parce que la réalité, c'est que manager ou salarié, on est tous imparfaits.
Et tant mieux, j'ai envie de dire.
Et tant mieux, mais à partir du moment où si on déconstruisait ça en se disant, ok, bon, toi, N plus 1, moi, N moins 1 de toi, en fait, nous, tous les deux imparfaits, et c'est ok, en fait. Parce qu'on expérimente une vie avec ses fracas personnels, ses fracas professionnels, et à un moment donné, on a besoin, si on veut donner aux autres, et surtout quand on est manager, si on veut donner aux autres, il faut qu'on soit relativement stable, en fait. Sinon, on fait tout un tas d'erreurs. Tout à l'heure, je te parlais de mon erreur avec mes anciennes équipes, mais c'est parce que je n'avais pas compris. En vrai, on ne m'avait pas expliqué, j'avais pas compris, j'étais manager beaucoup trop tôt, je ne me connaissais pas. Donc cette notion de connaissance de soi, à mon avis, est fondamentale.
Je vais t'emmener un petit peu dans le futur, tu vas compléter la phrase. Selon toi, en 2050, le sujet de la santé mentale au travail sera...
Est-ce que le travail existera encore en 2050? au demeurant, sera normal, normalisé, en fait. On peut déplacer le centre de gravité de la norme. Regarde, le fait d'en parler aujourd'hui dans un podcast, c'est tout simplement qu'un tabou ne doit plus devenir un tabou, en fait. Et on déplace le centre de gravité de la norme.
Ce sera un sujet comme un autre.
Exactement.
Pour terminer ce podcast, on a une tradition. Je demande toujours à mon invité de poser une question à mon prochain invité. Donc, tu vas écouter la question de Stéphane Moriou, qui a écrit un livre qui s'appelle Feedback, qui est paru aux éditions Duno.
Qu'est-ce qui pourrait vous donner encore plus envie de mettre davantage de feedback dans votre vie ?
Oser, c'est-à-dire que pour moi le feedback et le remerciement d'un point de vue global, c'est quelque chose qui vient nous chercher nous et c'est un peu comme le je t'aime, on n'est pas forcément à l'aise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très à l'aise à dire je t'aime et même à je ne t'aime plus en fait, c'est la même chose dans le remerciement, par exemple moi dans le feedback je vois notamment le remerciement, moi par exemple je suis pas à l'aise à dire merci, je me dis ça paraît bizarre en fait, alors je remercie au quotidien tu vois de m'avoir donné des choses, d'avoir participé, d'avoir fait quelque chose, mais je te regarde dans les yeux, merci pour l'invitation, ça me paraît bizarre en fait, donc je dirais ce qui me donnerait envie c'est le fait d'oser en fait dépasser le feedback positif, pour moi un feedback est toujours positif d'ailleurs, c'est-à-dire que même quand on va aller montrer une zone d'amélioration, c'est positif, donc je pense que ça serait oser le faire parce que j'adore que les autres me le fassent.
Très bien, et tu auras deviné que je vais te faire travailler un petit peu maintenant, quelle question tu aimerais poser à mon prochain invité sur ton sujet à toi, c'est-à-dire la santé mentale?
Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question? J'aimerais bien imaginer une question. Quelles seraient vos trois ressources pour prendre soin de votre santé mentale?
Hâte d'entendre la réponse. Merci beaucoup, Catherine.
Merci,
c'était
Camille.
Un plaisir. Et je rappelle ton livre que tu as coécrit avec Eva Mazur qui s'appelle « Aider, les clés pour apprendre à observer, écouter, accompagner » qui est paru aux éditions Michel Lafond. À très bientôt.
Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail. Mmh.